voix nue, Hubert Prolongeau, cette semaine avec
Hugues Pagan, écrivain en français.
Troisième épisode, Flick Story. Hugues Pagan, vous arrivez au commissariat de Dijon. On a vu hier qu'on vous demande de fermer votre gueule. Quels ont été vos rapports avec vos hiérarchies successives ?
Excellent, excellent, excellent. J'ai fait mon métier. Alors, le rêve de tout patron, c'est de vous démolir de manière technique. Enfin, je veux dire, j'avais pas beaucoup de sous. J'avais une existence particulièrement modeste. J'avais des pratiques tout à fait légales. Donc j'étais absolument, j'ose pas dire inatteignable, mais voilà. J'ai fait partie du corps ô combien regretté des inspecteurs. On était les chaouches des patrons, quoi. Je veux dire, il fallait une espèce de flagornerie dont je n'étais pas capable. Ou bien on essayait de vous shooter, mais quand on n'y arrivait pas, il faisait un petit peu le rapport entre le risque et l'intérêt. Puis il se lassait assez rapidement. Non, j'avais de bons rapports avec la hiérarchie. J'ai eu des moments, si vous voulez, à me rappeler mon existence de cette époque-là, j'ai eu des moments d'intense rigolade. Je me rappelle un jour deux jeunes commissaires stagiaires dont je tairai les noms. Il y avait eu à Dijon une bande de manouches, de femmes, qui avaient une technique tout à fait particulière pour dépouiller les vieilles dames, ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire qu'elles arrivaient dans un appartement bourgeois, il y avait les bonnes femmes qui étaient là, les propriétaires des lieux, elles disaient « on va vous cirer vos parquets ». Gratuit. Alors évidemment, si vous dites à un bourge « vous cirez les parquets gratuits », l'autre, elle saute dessus. Et alors le jeu de ces femmes, c'était d'enduire les parquets en coinçant les vieilles dames dans un coin. On dit « ne bougez pas ». Et là, elle dépouillait. Ça me faisait rire. Bon, il paraît que c'était pas bien.
C'était une envie de rire exutoire salvatrice, ou c'était juste parce que...
Non, ça me faisait marrer, c'est tout. Gaston Lagaffe, Moiselle Jeanne. J'étais une sorte de Gaston Lagaffe. Et puis donc, les deux commissaires stagiaires nous disent « ouais, il y en a marre, on les a localisés à la combe à la serpent ». Alors, c'était deux jeunes commissaires stagiaires qui avaient été parachutés là. Ils avaient été intronisés à Saint-Cyr au Mont-d'Or en tant que dieu et dieu adjoint. Et donc, on connaissait très bien le camp Manouche. Il y avait 150 caravanes, 200 mecs, et donc ces deux commissaires, pardon, nous disent faut y aller. Alors j'étais jeune, j'avais un jeune inspecteur avec moi, et on avait des 4L bleu pâle. Donc on est arrivé, il y avait les deux commissaires avec les R12 bleu pâle, hein, commissaire R12, inspecteur R4, et donc c'était formidable. Il y avait les manouches avaient des choufs, hein, évidemment. Et puis, je connaissais bien les manouches, pour les raisons qu'on connaît. Et quand on est arrivé, j'ai vu que les enfants étaient devant, les femmes étaient derrière les enfants, et derrière, il y avait les manouches. J'ai remarqué aussitôt les carabines 22 et les fusils de chasse. Ils étaient 150, on était 4. Je me suis payé un refus d'obéissance. On m'a dit, faut y aller. Allez-y, messieurs. Allez-y.
Tirez le premier.
Voilà. Donc, j'ai pris ma petite 4L, je suis redescendu. Oh, j'ai eu droit à un rapport administratif. Il ne sait pas bien, on n'est pas obéi. Voilà. Je me suis beaucoup. Un jour, c'est beaucoup plus tard, mais un jour, j'étais à un pot au ministère. Et il y a un commissaire, ou commissaire principal, qui me dit ah, c'est marrant, Hugues, dans vos écrits, vous dites les commissaires sont. Vous nous traitez les commissaires de blaireaux. Je dis, ouais, c'est écrit. Et pourquoi? C'est un mauvais caractère? Je dis, non, parce que les blaireaux, ça pue. Pour des raisons qui me sont hermétiques. Alors que j'avais dit ça gentiment, c'était sur le mode de la plaisanterie. Il n'a pas pris ça pour une plaisanterie. Voilà, donc.
Votre première affaire, vous vous en souvenez?
Non, non.
Et votre premier choc?
Non, 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 ça a été. Bon, peut-être que mon premier choc a été ma première autopsie. Peut-être que j'ai tendance à dramatiser les choses. Je ne sais pas.
Vous démarrez dans les années Giscard que vous évoquez dans Le Carré des Indigents, qui est votre dernier roman pour l'heure.
Pour l'heure.
Comment c'était à l'époque ?
Oh, c'était un petit peu ce que raconte M. Ravvallée dans Mort d'un pourri. Je veux dire, c'était très cloisonné, très structuré. On ne s'est pas rendu compte. Les années Giscard, c'était la porte ouverte à l'Europe. Je veux dire, c'était la porte ouverte à la normalisation, au découpage de la France, portion par portion. C'était à la fois autoritaire, c'était un peu un panier de crabes, parce que les Giscardiens n'aimaient pas les précédents, les Giscardiens n'aimaient pas beaucoup les gaullistes détestaient les Giscardiens, ça a abouti à Mitterrand, d'ailleurs. C'est rigolo. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Je me suis marré, en observateur des choses de la vie, je me suis marré à toutes. Mais c'est vrai que c'était des insupportables technocrates. Alors, si vous étiez assez malin pour être... J'ai été toute ma vie sous la ligne de flottaison, sous la couverture radar, à observer, à me fendre la gueule. Gaston Lagaffe. Donc j'ai été une sorte de Gaston Lagaffe de la police, en faisant mon travail de manière tout à fait impeccable. Hein, je veux dire. Alors, j'étais impeccable pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les inspecteurs avaient une vraie culture de police judiciaire, et comme j'étais un boulimique de lecture, je connaissais le code pénal par cœur. J'étais imbattable. Au niveau pénal, j'étais considéré comme un excellent procédurier. Bah, une fois que vous n'êtes pas brutal, vous n'êtes pas corrompu, vous êtes un bon procédurier, on est obligé de vous foutre la paix. Quoi. Sauf monter une cabane. Monter une cabane, c'est long, c'est compliqué, c'est pas toujours... Ils n'ont pas toujours le talent de faire ça. Moi, en tout cas, j'ai jamais été victime d'une cabane. Hein. Jamais.
La collaboration était encore présente, je ne veux pas dire directement, mais est-ce qu'il y avait encore des restes ? Est-ce qu'il y avait des policiers qui avaient...
La collaboration avec l'Allemagne, aussi bien la ville dans laquelle je travaillais que la police à laquelle j'appartenais étaient encore de plein pied issus de la collaboration, bien sûr. Oui. Je me rappelle quelques patrons qui m'ont dit gentiment, vous voyez, finalement, c'était pas bien terrible, la traversée du désert, ça a été vite fait. Oui. Mais j'étais obligé de leur donner raison. Ils avaient été plus ou moins... Enfin, ils avaient été très collabos. Ils ont été blanchis rapidement. Bon, un jour, on se posera la question. On se l'est déjà posé, mais on n'y a pas répondu. L'épuration n'a pas existé. Ça a été une sordide plaisanterie. N'oubliez pas un détail, c'est que c'est quand même à un ingénieur nazi que les Américains doivent la conquête de la Lune. Il ne faut pas oublier des choses simples. Et quand on me dit « non, t'exagères », il y a une photo accablante où il y a notre ami von Braun et notre ami, comment s'appelait-il, celui qui s'en est tiré parce qu'il avait tout le patronat allemand dans sa poche, l'architecte d'Hitler. Albert Speer, oui. Et ils sont tous les deux photographiés plein cadre, je veux dire. Et de l'autre côté des barbelés, il y a des... des gens qui sont des internés. Enfin, et ils ont dit, on savait pas, on n'était pas au courant. Ah bon, bah oui, d'accord. Donc, les gens que j'ai côtoyés ne se cachaient de moins en moins d'avoir été de fiefs collabos. Bien sûr. Il y avait quelques... En 73, 74, il y avait encore quelques relents du SAC, mais c'était pratiquement qu'une petite entreprise de voyous. C'était plus... ça n'avait plus aucun caractère politique, quoi.
Vous débarquez là, en blouson et en Santiago.
Ouais.
C'était une nouvelle manière d'être flic ? C'était juste du folklore ?
Non.
Ou c'était vraiment une rupture ?
Non, c'était... Moi, quand j'ai pris mon bureau 208, il y avait encore le crocodile, enfin le porte-chapeau, là, le porte-manteau, avec... mon prédécesseur avait encore un chapeau mou marron, comme avait mon papa, et un trench coat. Ce qui fait que quand il se promenait dans les rues... Il était détronché direct. Bon, quand on a commencé un petit peu à s'intéresser pas au banditisme, parce que c'est une plaisanterie, quand on a commencé à s'intéresser à la délinquance, il fallait bien que nous fussions habillés comme des délinquants. S'ils avaient porté le bada et les talons compensés de ton, on aurait... C'est tout, c'était une adaptation au biotope.
Vous démarrez donc, Giscard est au pouvoir. Vous êtes encore policier quand François Mitterrand devient président de la République, quand la gauche accède aux hautes fonctions. Ça a changé quelque chose dans la police ?
Rien du tout.
Ni en bien, ni en mal.
Oh, il y a eu un petit moment. Si, j'ai remarqué un truc en 81, j'étais délégué syndical. partie de ma vie sur laquelle je préfère tirer un voile pudique, mais je me rappelle le nombre de commissaires qui sont devenus socialistes, c'était hallucinant. Hallucinant. J'avais un copain commissaire qui est devenu manière dans mon bouquin, là, qui était un aimable crétin, c'était un commissaire, et qui m'avait dit, sous Giscard, il m'a dit, tiens, regarde, toi qui es doué, j'étais inspecteur de base, hein, prends ta carte au RI, comme moi tu vas monter. Je dis, ça va pas, non? Donc j'avais vu sa carte au RI. Eh bien, vous ne me croirez pas, en 81, il m'a montré sa carte au PS. J'ai dit, si j'ai bien compris, t'es un commissaire multicarte. Il n'a pas apprécié, mais comme on était copains autrement, par ailleurs. Non, ça n'a pas changé grand. Il y a eu un moment de grande rigolade, c'est quand on a affublé les quais-bourgs d'un manuel de déontologie. Mais il y a eu un moment formidable, c'était un moment, je ne plaisante pas, je ne dis pas qu'on vous soyez les prévenus, mais pendant quelques semaines, on a cessé de tabasser les gens. Ah non, mais attends, il y a eu un petit progrès, puis ils se sont rendus compte que c'était comme d'habitude.
Alors,
as usual.
Vous évitiez, vous, de tabasser les gens ?
Je n'ai jamais tabassé les gens. Je me suis battu. On n'en parle jamais, mais j'ai une ceinture noire de karaté, quand même, qui avait fait beaucoup rire. Ça avait fait beaucoup rire un juge d'instruction. Je lui ai dit, regardez, comment voulez-vous que je fasse du mal ? Mes petites attaches fines comme ça, il m'a dit, vous n'êtes pas premier dan de karaté. Oh, qu'il est con. Voilà. Non, je n'ai jamais tabassé les gens, je n'ai jamais serré les menottes de manière... Parce qu'il y a des manières subtiles de faire mal. Hein. Le quai-bourg est très fort pour ça. J'ai pas fait. Alors pourquoi ne l'ai-je pas fait ? D'une part, par souci humain, par respect de l'autre et de soi-même. C'est un de mes principes fondamentaux. Et d'autre part, j'ai fait le calcul suivant. Si on prend un mec, on le serre. On est obligé, je veux dire, on ne peut pas faire autrement. Si on le traite décemment, peut-être qu'un jour, il aura été libéré, il sera armé, et au lieu de tirer à vue, il va se rappeler qu'il a été traité décemment. Vicieux, hein ?
Mais efficace.
Je ne sais pas. J'aimerais le prétendre.
Vous incarniez, vous êtes entré dans la police avec l'envie, vous nous l'avez dit, de défendre la veuve et l'orphelin, de valeurs chevaleresques, peut-être un peu
humaniste. Désuètes. Humaniste.
Dans quelle mesure vous avez pu les exercer et qu'est-ce qui a fait obstacle?
Alors, j'ai pu les exercer d'une manière très simple, très rudimentaire, c'est très à la base. C'est-à-dire, quand vous prenez les gens, quand vous les auditionnez, il faut le faire, je veux dire. Il y a une façon de ne pas les humilier, une façon... Je prétends avoir été un policier dur, je connaissais les lois parfaitement bien, mais en même temps, courtois, un honnête homme. J'ai essayé, de temps à autre, effectivement, je n'ai peut-être pas été tant que cela. J'ai essayé, ça a été une règle de conduite. J'ai fait un travail tout petit, infinitésimal, à mon petit niveau.
Règle de conduite qui faisait de vous un marginal ?
Qui faisait de moi... Alors, le problème, il est le suivant. C'est qu'on empiète dans deux domaines. C'est que j'étais policier en service. Bon policier, puisque je n'ai signé que des notes tout à fait correctes. Je n'ai jamais eu, jamais, le moindre avertissement. Je n'ai jamais eu la moindre sanction. En 23 ans, il faut quand même le faire, quoi. On ne m'a jamais mis une affaire sur le dos, je n'ai jamais été accusé de corruption ou de violence. En 23 ans, c'est quand même pas mal, quoi. J'étais tout en bas, j'emmerdais personne, je faisais mon métier de manière aussi précise et équitable que possible.
La corruption, elle était très présente autour de vous ?
Non, la corruption, c'est un petit peu les séquelles du roman noir américain. On voudrait... La chose la plus répandue, c'est la brutalité. Les violences, la brutalité, oui, ça s'est répandu. Et ça continue à l'être. D'ailleurs, on s'en rend compte maintenant. J'ai des copains qui me disent, t'as vu, c'est... Je dis, mais attends, les brutalités policières, on le sait. Mais quand on les dénonçait, il n'y avait pas d'image. Maintenant, on sait et on a les images. Voilà, et puis ça n'a rien changé du tout, ils continuent comme d'habitude. Voilà, c'est...
Vous avez écrit que la police roulait pour le CNPF. Vous faites dire ça à un de vos personnages. Ça vous paraît toujours juste ?
Mais ça me paraît juste depuis le début. Enfin, la police, elle est là pour servir les intérêts soit d'une classe sociale, soit comme maintenant d'une caste au pouvoir. C'est tout. Il y a eu une vague velléité qu'il y eut un service public en 81. Ça a été vite éteint grâce à monsieur Defer, n'est-ce pas, qui a tout de suite fait rentrer. Et ces gens-là, forts de l'impunité, ils continuent à servir obstinément une caste.
Et ça, vous en êtes rendu compte
tout de suite.
Pendant que vous étiez policier,
tout de suite.
Ça a été une grosse désillusion. Vous avez fait avec.
Ça n'a pas été une désillusion. Je déteste me surprendre en flagrant délit de naïveté. J'ai été naïf. J'ai pensé qu'on pouvait. On ne pouvait pas. La police n'est faite que. Alors, il faut savoir que la police n'est pas. Moi, j'ai appartenu à un service qui n'existe pratiquement plus. C'est la police judiciaire, qui est la répression des crimes et délits sous l'autorité de la justice. La justice étant maintenant sous l'autorité de la caste, on reprend à zéro. Mais la police, c'est la répression, c'est tout. Récemment, je me stationne. Bon, j'avais tort. Je me stationne face à un vétérinaire. Et puis, il y a une voiture qui s'arrête à ma gauche. Il y a un type aux yeux vitreux qui dit « Dégagez !»« Pas bonjour, tu es un gendarme. » Ça fait 163 euros si vous restez. Bon, ça fait 135 euros. Le seul argument, c'est pas. Vous savez, c'est. Non, le seul argument, c'est. 135 euros, c'est. Je suis OK, je m'en vais. Alors, je fais signe pour les laisser passer. Ah non, ils ont voulu que je passe devant parce qu'ils avaient peur que je reste. Ça, c'est l'attitude moderne d'une police répressive à qui on donne tous les droits. Ils les avaient déjà.
Vous avez mis un patron d'entreprise en garde à vue.
Il a été
reproché. Racontez-nous.
Il était bourré et il a renversé une fillette sur un trottoir, sur un passage clouté. Bon, il s'est fait serrer 300 mètres après et on me l'a amené. Alors, c'est un patron d'une entreprise. Il m'a donné sa carte. La gosse était au SAMU. Hein. Il m'a donné sa carte. Voilà les coordonnées de mon assurance. Et on ne s'est pas bien compris. Là. Garde à vue. Bon, j'ai collé en garde à vue. Comme il a renaudé un peu, j'ai demandé à mes gardiens de faire la fouille à corps. Une garde à vue, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous fout à poil. Ça, les gens ne le savent pas. On vous fout à poil. Les gars m'ont dit, il n'est pas trop d'accord. Écoutez, bon, est-ce que vous voulez que je m'en occupe ? Karaté. Ils m'ont dit, non, c'est pas la peine, monsieur le divisionnaire. Bon, t'es mécontent comme tout. Il s'est retrouvé en garde à vue. Après la garde à vue, il a été auditionné. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu un retour de bâton des syndiqués de l'entreprise pour demander la libération du patron. Chronique de la servitude ordinaire.
Libération qui a été accordée ?
Non. Ah non, à l'issue de la garde à vue, il a été déféré. La gosse s'en est tirée par les cheveux. Hein.
Et ça, dans l'usine, comme vous appelez la police
c'est
dans
très
vos
mal
romans,
lu, très mal
vous,
lu, très mal lu. Ah, ouais. On m'a dit, le patron du desk m'a dit, vous savez, monsieur le divisionnaire, vous manquez singulièrement de jugement. Je n'ai pas à juger, moi. Ce sont aux magistrats, ça n'est pas aux policiers de base.
Les affaires qui vous intéressaient, c'était lesquelles ? C'était s'attaquer, faire tomber des gros truands, ou c'était au contraire essayer d'aider ou d'intervenir dans des affaires où sont impliqués des petits gens, où sont impliqués des...
Le gros problème de la police, effectivement, on parle à cœur ouvert, hein, si je puis dire. C'est qu'on a rarement affaire aux gros truands. Si vous voulez avoir affaire aux gros truands, il faut avoir affaire à l'évasion fiscale, il faut avoir affaire au CNPF, dont je parlais tout à l'heure, qui n'existe plus, c'est le MEDEF. Il faut avoir affaire à ces gens-là dont la témébilité sociale est absolument évidente. Mais le reste, c'est quoi un grand truand ? J'ai rencontré un grand truand dans ma vie, je suis content d'ailleurs. Le reste, c'est des pauvres types ou des pauvres femmes qui se sont trouvées dans des situations à la con où ils n'ont pas trouvé la solution. C'est tout.
Et que vous arriviez à aider parfois ?
Non, pas toujours. Pas toujours, parce qu'à partir du moment où le type a passé la ligne, je prends l'exemple d'un gars qui va tuer son voisin de palier ou sa femme, il y a un certain nombre d'incriminations pénales. C'est pas moi qui fais ces lois, et ces incriminations pénales sont une mécanique qui vont faire que cet individu qui a commis une erreur ou une faute va se retrouver face à un tribunal. C'est tout. Il y a un aspect mécanique, ça n'est pas... On peut pas... Sauf à changer les lois, évidemment, mais on peut rien y faire. Il m'est arrivé de mettre en garde à vue des gens à qui j'ai dit « Putain, t'as été con, quoi, tu vois, pourquoi t'as fait ça ?»« Ouais, parce qu'elle était agaçante. » »« La mienne aussi est agaçante, mais enfin, c'est quand même pas une raison. Hein » Voilà.
Si je reprends votre carrière, donc vous avez démarré au commissariat de Dijon, vous avez travaillé aux renseignements généraux à la section frontières à Belfort, vous avez été formateur à l'école d'inspecteurs de Cannes-Écluse, vous avez participé au service de coopération technique de la police et fini comme chef de nuit à la 4e division de Paris. Est-ce qu'il y a dans ces diverses affectations une qui vous a semblé le plus proche de ce que vous vouliez
4e
être
DPJ,
en tant que...
4e DPJ Paris.
Pourquoi ?
Parce que d'abord, à l'époque, la criminelle, c'était la Rolls-Royce de la police judiciaire. Paris, c'est un endroit où faisiez un grand nombre d'affaires, et c'était un endroit où on était en contact direct avec la population. Il m'est arrivé, certaines nuits, à la 4e DPJ, d'avoir 20 affaires à traiter. C'est-à-dire homicide, viol, attaque de pharmacie, en fait, voilà. Et à chaque fois, on y va, on commence. En fait, on ne les traite pas à fond, bien entendu, hein, c'est pas possible. Mais on fait ce qu'on appelle la saisine, on commence à faire les premiers actes d'enquête. Et c'est un observatoire formidable de la société humaine malade. Et si vous me posez la question de savoir de quoi la société humaine est malade, du profit et du capitalisme effréné. On va encore me traiter d'écrivain marxiste.
Le 27 juin 88, il y a un accident de train dramatique à la gare de Lyon. Un train en percute un autre. Ça n'était pas à vous d'y aller, mais vous y allez pourtant. Vous allez nous en parler, mais je voudrais lire un passage de Dernière station avant l'autoroute, un chapitre 13 que certains vous ont reproché, dans lequel vous racontez ça. Il a fallu ouvrir chaque bâche, examiner chaque corps, fouiller les vêtements, qu'ils soient intacts ou en lambeaux et même empesés de sang, enlever bagues et bracelets, vider le contenu des poches. Difficile de tout se rappeler avec précision. Du sang, oui, beaucoup de sang. Des lambeaux de chair, des os brisés d'où s'échappait de la substance médulaire, des membres déchiquetés, tordus, des moignons sanglants ou calcinés. Je me souviens de l'ankylose qui m'a envahi progressivement le cerveau. Très vite, tout n'a plus été qu'une succession de gestes automatiques. Très vite, nous avons cessé de parler pour quoi que ce soit d'autre que le strict nécessaire. Pourquoi êtes-vous allé à la gare de Lyon ce soir-là ?
Ursprung und Wesen der Wahrheit, surgissement. Je suis tranquille, je remplace un collègue divisionnaire. Et j'arrive et je me dis, tiens, c'est bizarre, j'arrive gare de Lyon, en surface, je me dis, c'est bizarre, il y a du monde. Bon, pourquoi pas ? Tiens, c'est bizarre, il n'y a plus d'escalier mécanique. Pourquoi pas ? Donc je traverse la gare de Lyon, je vais à la division qui est à deux pas, et là on me dit, tu prends des ordres d'envoi IML, formulaire pour envoyer les cadavres à l'Institut médico-légal. Je suis avec un jeune inspecteur qui est avec moi et qui prend une liasse de 40. Je dis, ça va pas, non, on sait jamais. Il avait raison. Il avait raison, on a éclusé les 40. Donc j'arrive là et je me dis, mais attends, mais pourquoi faire ? C'est un accident. Un accident, ça n'est pas la brigade criminelle. Mais il faut y aller, parce qu'il n'y a que vous. Mais les gens des accidents, ah ben ils sont pas là. Je dis, attends, il y a deux permanents aux accidents au desk, et ils ne sont pas là. Ben non, ils ne sont pas là, alors il faut y aller. Pourquoi ? Il faut y aller parce que les cadavres sont en train de s'empiler. Les choses se sont passées à 19h. Moi, j'arrive vers 20h30. Il fait chaud. Je descends. Mais je descends avec une moitié du cerveau déjà paralysé. Je descends, je me rappelle mes Santiago, c'était rigolo. Je descends comme ça, et puis je croise une espèce de chouka effaré. Je l'écarte, de nous casser de là. C'était Rocard. Oh putain. Ah là, ça sent caca, quoi. Il y avait Rocard, il y avait Chier. Tout le monde était là. Et on commençait à ouvrir, à désincarcérer les premiers corps, quoi. Et après, bon, ça a été un petit peu horrible, quoi.
Horrible, d'une horreur à laquelle vous n'étiez pas déjà accoutumé.
Non, justement, le psychiatre de la boîte qui m'a examiné après m'a dit, mais je comprends pas, vous avez fait combien de cadavres dans votre vie ? Écoutez, au pif... 200. Et 200 cadavres ? Et ces 40-là, ça vous embête ? J'ai failli lui foutre la table sur la gueule. Ma petite femme m'attendait à côté pour m'emmener. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est... Alors, franchement, c'est avec un vif regret. Là, c'est un des rares regrets de ma vie.
Le lendemain, dans quel état vous réveillez-vous ? Est-ce que vous décidez que la police, c'est fini ? Est-ce que vous avez l'impression que... Voilà, il y a une étape de franchie que vous ne pouvez pas en supporter plus.
Non, je pense que j'ai pas dormi pendant une bonne semaine, comme d'habitude. Et puis, j'ai continué. Vous savez, comme un bateau, vous coupez le moteur, vous amenez les voiles, et il y a ce qui s'appelle courir sur son air. C'est vachement beau. Un navire, quand on sait piloter un navire qui court sur son erre, E2RE, c'est le pied, quoi. Et le pied, c'est d'arriver à amener un navire sur son erre à l'empontage. On n'y arrive pas à tous les coups, mais quand on y arrive, c'est pareil. J'ai continué sur mon erre jusqu'au jour où...
La tentation du suicide vous a effleuré ?
Je sais pas. Je sais pas. Je crois que oui, mais c'est un côté tragique, c'est un côté grandiloquent. Je sais pas, j'aurais préféré continuer comme ça.
Mais votre...
Mais surtout, quelque part dans le côté non ankylosé, il y avait ça. Il y avait dernière station.
Votre carrière s'est un peu arrêtée là. Ensuite, il y a eu des congés maladie. Vous avez négocié une pension. Vous êtes parti.
Je n'ai pas négocié une pension. Mon avocat a téléphoné au bureau administratif. Le bureau administratif a fait des propositions. Je les ai acceptées. Voilà. Je suis parti à 50 ans, en situation de pré-retraite. Voilà.
Et après que l'on vous a muté au commissariat de la Roquette, c'était une punition.
Oui, mais c'était une punition à la con, parce que au commissariat Roquette, j'avais avec moi un autre divisionnaire, Michel Orasi, qui était un ami, qui est mort hélas juste après la retraite. On était pieds noirs tous les deux. On s'est entendus. On a fait de l'inspecteur divisionnaire comme le stationnement alterné. Une semaine c'était lui, une semaine c'était moi. Comme quoi, même les mauvaises intentions ne sont pas toujours suivi de mauvais effets.
Hugues Pagan, merci. Il y a évidemment un événement majeur pendant toute cette période policière, c'est l'écriture.
Ouais.
Mais on l'abordera demain avec vous. Vous nous raconterez
avec le plus grand plaisir
comment Monsieur le policier Pagan est devenu écrivain.
Merci.
À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Guillaume Baldi, une émission de Hubert Prolongeau.